dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier. Il y a 150 ans, le 18 mars 1871, débutait l'histoire de la Commune de Paris. Dissonance vous propose de commémorer cet événement durant trois émissions d'une heure, afin de comprendre les causes de cette révolution, son déroulé, et d'en saisir les prolongements actuels. Nous serons accompagnés tout au long de ces trois émissions par quatre acteurs historiques de la Commune de Paris de 1871, à savoir Victorine Brochet, Louise Michel, Jules Vallès et Prosper Olivier Lissagaray.
Je m'appelle Victorine Brochet. Je suis née le 4 septembre 1839 et morte le 4 novembre 1921. J'ai été communarde, conférencière et journaliste. Je suis connue pour avoir rédigé mes mémoires intitulées « Souvenirs d'une morte vivante », détaillant ma participation à la Commune de Paris en tant qu'ambulancière et cantinière dans la garde nationale fédérée.
Je m'appelle Louise Michel et je suis née en 1830 en Haute-Marne et morte en 1905 à Marseille. Je suis institutrice et je me suis impliquée en allant me battre sur les barricades pendant la Commune de Paris de 1871. Je suis ensuite déportée en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1880. Anarchiste convaincue, je sillonne la France jusqu'à ma mort, à l'âge de 74 ans, pour populariser les idées libertaires et soutenir les compagnons et compagnes en lutte.
Je m'appelle Jules Vallès et je suis né au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, en 1832 et mort en 1885. Je suis journaliste, fondateur du journal Le Cri du Peuple et écrivain. En 1871, à Paris, je fais partie des élus du Conseil de la Commune. Condamné à mort, je m'exile à Londres de 1871 à 1880.
Je m'appelle Prosper Olivier Lissagaray. Je suis né à Toulouse et mort en 1901. J'ai été communard et journaliste. Je suis connu pour avoir recueilli des témoignages de communards en exil, à partir desquels j'ai publié mon livre « Histoire de la Commune » de 1871.
Souvent, une des premières entrées dans l'histoire de la Commune de Paris, cette révolution populaire et sociale, véritable insurrection prolétarienne, souvent donc cette découverte se fait soit par une visite émouvante au Père Lachaise, soit par un effarement lié à l'incroyable nombre de morts communards, d'exécutions, de massacres et de fosses communes. D'où la question, mais qu'en fait de si important en deux mois, du 18 mars 1871 au 21 mai de la même année, les hommes et les femmes de cette époque pour qu'en plus de les avoir battus, on veuille aussi effacer leurs traces à jamais et veiller à ce que les graines de résistance et de rébellion qui portaient en eux ne repoussent jamais. Les communards de 1871 avaient une utopie pour moteur. L'horizon de leurs désirs ne se limitait pas à un avenir proche, mais plutôt à un changement radical de société, plus fraternel, plus social, plus juste. Malheureusement, Paris, isolé, ne pourra jamais voir se concrétiser ses rêves et ses projets. Certains verront le jour des années bien plus tard, malgré la chape de silence qui va s'abattre durant près d'un siècle sur cette période. Mais l'esprit de la Commune est toujours là aujourd'hui, 150 ans après, dans la volonté des hommes et des femmes de s'émanciper, de vouloir un monde meilleur, de participer au débat de la vie publique et de prendre en main leur destin. Souvent, ce mouvement est rattaché à une exaspération des Parisiens qui subissaient l'inaction de leurs dirigeants face aux armées prussiennes qui menaçaient Paris dès 1870. Non, non. La Commune de Paris n'est pas une insurrection patriotique. C'est un mouvement social révolutionnaire qui prend sa source bien avant 1871. En février 1848, le peuple de Paris fait sa révolution et renverse le roi Louis-Philippe. Mais le gouvernement provisoire réprime dans le sang d'autres mouvements populaires en juin. En décembre 1848, c'est à nouveau la République, mais pas pour longtemps. Son président, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'autre, se proclame empereur. Nous sommes en 1852 et c'est le Second Empire.
Il avait une moustache énorme, un grand sabre et des croix partout.
Partout, partout.
Mais tout ça, c'était pour la forme, et ça ne servait à rien du tout.
Rien du tout.
En 1869, de nombreuses luttes ouvrières voient le jour. Certaines sont réprimées violemment. Aux mines de la Ricamarie, dans la Loire, il y aura 13 morts et 9 blessés. Et ici même, dans le bassin Houillé-d'Aubin, en Aveyron, 14 ouvriers seront tués. Des grèves se succèdent, le mouvement ouvrier prend forme. Pour échapper à cette tempête ouvrière, l'empereur, incapable de maintenir la paix sociale, malgré le soutien que lui apporte la France rurale, tente une diversion en déclarant la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. Rien de tel en effet qu'un conflit dont Napoléon III pense sortir gagnant et ainsi faire remonter sa cote de popularité, comme on dirait aujourd'hui. Mais l'agitation ouvrière ne tombe pas dans le piège. Elle persiste dans ses revendications de justice sociale, auxquelles s'ajoute leur colère contre l'armée française qui subit des défaites face aux Prussiens. Napoléon III se voit contraint, pour calmer l'agitation grandissante, d'armer les bataillons de la garde nationale parisienne, soit 250 000 civils, des hommes, sur une population de près de 2 millions d'habitants. Le 2 septembre 1870, l'empereur est fait prisonnier. Les Prussiens sont aux portes de la capitale et occupent le nord de la France.
Jeunesse héroïque, parle ton flambeau pour la République.
En avant,
mon blanc.
Le 4 septembre 1870, la République est proclamée à Paris et un gouvernement bourgeois de défense nationale est nommé en attente d'élections. En réalité, ce gouvernement, que l'on va appeler par la suite le gouvernement Thiers, donc dirigé par Adolphe Thiers, ce gouvernement utilise le nom de République et n'en veut surtout pas l'esprit. Il tente de protéger l'ordre établi dans l'intérêt des bourgeois et des aristocrates. Le péril est davantage dans la plèbe parisienne que chez les Prussiens. Les rares sorties militaires, parfois victorieuses, ne sont pas mises à profit par ce gouvernement provisoire. Dans un premier temps, les Parisiens veulent en découdre. Ils ont la supériorité du nombre. Aussi s'étonnent-ils de la passivité du gouvernement et des généraux.
Et bien de tous ces ravages, nous souffrons sans murmurer. Loin de nous désespérer, ils augmentent nos courages. On ne vaincra pas Paris tant que nous serons unis.
Dès le mois d'octobre, les Parisiens y voient clair. Ils se sentent trahis. Et tout s'enchaîne. Le 18 janvier, l'Empire allemand est proclamé au château de Versailles. Le 22 janvier, une manifestation populaire devant l'Hôtel de Ville et à Paris est réprimée dans le sang. L'armistice avec la Prusse est signé le 28 janvier. Fin janvier, les clubs et les réunions publiques sont interdits. Des élections législatives ont lieu le 8 février 1871. La nouvelle assemblée élue, qui siège à Versailles, est composée en majorité de monarchistes. Le 28 février, 50 000 gardes nationaux manifestent contre l'entrée de l'armée allemande dans Paris. Exaspérés, ils se fédèrent. C'est ainsi que les gardes nationaux qui seront favorables à la Commune se nommeront les fédérés. Le 1er mars, l'Assemblée nationale approuve la cession de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine à l'empereur d'Allemagne récemment proclamé. L'ennemi n'est plus l'envahisseur, mais le prolétariat parisien.
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
Alors Thiers veut passer à l'offensive, il prépare une action d'envergure pour la reprise de l'ensemble des canons dont disposent les gardes nationaux fédérés. Dans la nuit du 17 au 18 mars, Adolphe Thiers et son gouvernement envoient la troupe s'emparer de ses canons.
Il y a 150 ans, la commune de Paris de 1871 sur dissonance. 18 mars 1871.
Vers 3 heures du matin, les soldats de l'armée régulière se massent place de la Bastille, au jardin des Tuileries, au faubourg du Temple, au jardin du Luxembourg, place Saint-Michel et devant l'hôtel de ville. Ils ont pour mission de récupérer les 227 canons sauvegardés des Prussiens par les gardes nationaux fédérés. Les canons pouvant servir aux Parisiens contre le gouvernement, ce qui n'était d'ailleurs nullement leur intention, Thiers souhaite les prendre pour désarmer le Paris populaire. Ils sont remisés rue Lepic, place Pigalle, place Clichy, place des Vosges et sur les hauteurs de Belleville, des Buttes-Chaumont et de Montmartre. Au début, tout se passe bien pour les soldats. Mais à Montmartre, lors de leur progression nocturne vers les hauteurs de la butte, ils blessent mortellement le garde national de faction, Turpin, le premier mort de la commune de Paris, et enferment les autres fédérés capturés. La manœuvre est lente. Les militaires mettent du temps à atteler car ils ne disposent pas sur place du nombre suffisant de chevaux avec leurs attelages pour déplacer les canons. Dès 6 heures du matin, certains Parisiens se rendent compte de la manœuvre et battent leur appel faisant sonner le tocsin. Ils découvrent la fiche fraîchement collée dans la nuit et signée de Thiers et de ses ministres.
Habitants de Paris, dans votre intérêt, le gouvernement est résolu d'agir. Que les bons citoyens se séparent des mauvais, qu'ils aient la force publique. Ils rendront service à la République elle-même.
Elle se terminait par des mots qui ont enragé les Parisiens.
Les coupables seront livrés à la justice. Il faut à tout prix que l'ordre renaisse, entier, immédiat, inaltérable.
La foule grossit, s'amasse auprès des soldats. Il y a de nombreuses femmes, des enfants aussi. La foule alpague la troupe, tente une discussion, exhorte les militaires à se ranger de son côté. Les soldats restent immobiles. Le général Lecomte, commandant de la manœuvre, refuse les premiers soins aux fédérés Turpin. La tension monte. De la rue des Rosiers, débouchent des fédérés, des femmes et des enfants criant « Vive la République !» La situation se tend. Le commandant de l'opération, le général Lecomte, est débordé. Il demande à ses hommes par trois fois de tirer. Joseph Verdaguer, un jeune sergent catalan, s'avance et crie « Crosse en l'air !» Les soldats pactisent avec la foule. Lecomte est arrêté. Avec quelques-uns de ses officiers, il est conduit sous bonne garde des fédérés au poste du Château Rouge avant d'être transféré au numéro 6 de la rue des Rosiers, le siège du comité de vigilance du 18e arrondissement. La situation est aussi confuse pour les troupes régulières en opération dans les autres quartiers de Paris. Encerclées par les Parisiens, elles ne peuvent s'emparer des canons. Les barricades se dressent dans certains arrondissements. L'insurrection se propage. Vers midi, spontanément, des bataillons fédérés se forment dans les quartiers et vont se poster devant les mairies de leurs arrondissements. Vers 15 heures, les fédérés du comité central demandent à ce que le gros des bataillons de la garde nationale se regroupe devant l'hôtel de ville. À la même heure, Adolphe Thiers prend peur et s'enfuit de Paris avec ses ministres, en direction de Versailles. Il donne l'ordre à son armée, mais aussi à tous les fonctionnaires, de quitter la capitale. Ce qu'ils font sans être le moins du monde inquiété. Pendant ce temps, un événement qui plus tard sera exploité par Thiers se joue à Montmartre. Un général, habillé en civil, est reconnu par la foule. Il s'agit de Clément Thomas, un militaire ayant participé à la répression contre les Parisiens en 1848 et qui avait été le commandant détesté de la garde nationale pendant le siège de 1870. Il est arrêté, conduit sur les hauteurs de Montmartre et aussitôt poussé dans un jardin de la rue des Rosiers. La foule excédée, les soldats, emportés par le tourbillon de l'insurrection en marche, décident de le passer par les armes. Peu de temps après, le général Lecomte, retenu prisonnier par une partie de ses soldats, est lui aussi fusillé dans le même jardin, malgré l'opposition des fédérés. Pris dans la tourmente, ces deux hommes paient pour les mois de privation et de souffrances vécues sous le siège de l'hiver 1870, ainsi que pour les humiliations et les provocations subies. En fin d'après-midi, l'hôtel de ville, la préfecture de police, l'imprimerie nationale, ainsi que de nombreux autres sites administratifs désertés par les hommes de Thiers, sont aux mains de la garde nationale fédérée.
Nous sommes la barrière inexorable, élevée contre toute tentative de renversement de la République.
Plus d'animation, plus de monarchie, il y a de l'égal ce qui est conforme à l'intérêt commun. Vive les Parisiens! Vive la Nouvelle République!
Une vingtaine de fédérés du comité central de la garde nationale se retrouvent à l'hôtel de ville. Ils s'y retrouvent sans y être vraiment préparés, maîtres de Paris, récoltant ainsi le bénéfice du soulèvement prolétarien parisien. Il y a quelques flottements qui expliqueront que les portes de Paris restant ouvertes, la plus grande partie de la troupe régulière, les soldats, ainsi que son état-major, se replient tranquillement vers Versailles, sans rencontrer aucune opposition. On ne se soucie guère davantage du fort du Mont-Valérien, déserté par l'armée régulière, et qu'il aurait été bon de prendre en vue des jours à venir. Mais ils sont loin de deviner les tournures que vont prendre les suites de cette folle journée du 18 mars. Pour l'heure, c'est l'apaisement que veut le comité central de la garde nationale. L'urgence est à la réorganisation des services publics, et personne ne pense à une guerre civile. Il lui faut gérer à cette garde nationale fédérée un mouvement de colère patriotique contre les Prussiens, ainsi qu'une exaspération contre une capitulation honteuse, une soif de république sociale et aussi un retour au calme. Les élus du comité central de la garde nationale fédérée s'interrogent sur leur légitimité à décider pour le peuple de Paris. De fait, ils décident de rester encore 2 ou 3 jours à leur poste, le temps d'organiser des élections municipales.
Il y a 150 ans, la commune de Paris de 1871 sur dissonance. 19 au 25 mars 1871.
La matinée du dimanche 19 est décisive pour la suite des événements. Les 35 membres du comité central de la garde nationale qui se retrouvent à l'hôtel de ville tentent de s'organiser. Certains d'entre eux proposent de marcher sur Versailles, mais la proposition est vite rejetée. L'heure est à la conciliation et à l'organisation. Ils passent plutôt du temps à construire leur fonctionnement interne et se concentrent vite sur la réalisation pratique d'élections. Le comité central veut un conseil municipal élu afin que le pouvoir dont ils héritent ait une assise légale, ce qui toutefois ne les empêche pas de prendre leur première décision. Ils font imprimer le journal officiel de la commune, qui sera vendu chaque soir dans Paris. Ils lèvent l'état de siège. Les prisonniers politiques enfermés dans les prisons parisiennes sont libérés et les journaux interdits par Thiers reparaissent. Légalistes, les fédérés souhaitent des élections en mairie. Mais pour cela, il faut l'accord de tous les maires et, en ce dimanche matin, rien n'est moins sûr qu'ils soient tous acquis à cette insurrection naissante. Justement, on apprend que ces derniers tiennent conciliabule avec les députés de la Seine à la mairie du 2e arrondissement. Interpellés par les fédérés, les maires tardent à répondre. Ils veulent, au préalable, reprendre possession de l'hôtel de ville et se faire l'intermédiaire entre Thiers et les Parisiens pour négocier les revendications du comité central, à savoir s'assurer que l'Assemblée nationale ne remette pas en cause la République, que personne n'essaie de désarmer les Parisiens car alors ils sauront se défendre, que les 30 sous soient versés encore quelque temps dans l'attente de la réouverture de la majorité des ateliers et que l'autonomie de la garde nationale parisienne soit respectée. Ce sont les conditions non négociables pour les fédérés. Certains Parisiens sont impatients et ne comprennent pas cette inaction et tout ce temps passé à négocier avec des maires. Louise Michel écrira :
la victoire était complète. Elle eût été durable si le lendemain, 19 mars, en masse, on fût parti pour Versailles. beaucoup seraient morts en route, mais la victoire eût été acquise.
À Montmartre, dans le cortège des Parisiens qui suivent la dépouille du garde national Turpin, on entend crier « À Versailles ! À Versailles !» Devant l'hôtel de ville où stationnent 20 000 gardes nationaux, on discute de la nécessité de se rendre à Versailles pour perturber la tenue de la première séance de la nouvelle Assemblée nationale qui avait été élue le 8 février. Cet acte eût été un signal fort en direction du reste de la France et surtout envers ceux qui n'acceptaient pas la capitulation avec les Prussiens. On en parle, on l'évoque, mais personne ne passe aux actes. Le comité central se noie dans la gestion des affaires courantes. C'est là un des tournants de cette histoire. Mais pour l'instant, la majorité des Parisiens reste calme. Un soldat, le capitaine Deniau, écrira.
Toutes les boutiques sont ouvertes, les cafés sont pleins, omnibus et piétons circulent. On parle bien plus des obsèques de Charles Hugo que de l'échauffourée de Montmartre.
Jules Vallès complétera.
Comme les rues sont tranquilles, rien n'indique qu'il y ait quelque chose de changé ou que des Brutus à 30 sous aient franchi le Rubicon.
Le lendemain, lundi 20 mars, le comité central de la garde nationale fédérée refuse de laisser l'hôtel de ville au maire et réaffirme toujours haut et fort son impatience à organiser des élections et à laisser la place à un groupe d'élus nommés par les Parisiens qui prendraient les premières décisions politiques du mouvement insurrectionnel. Les fédérés commencent à se demander si ces maires réfractaires ne jouent pas un peu la montre en faisant perdre aux Parisiens un temps précieux. Mettant à profit cette valse hésitation, Thiers regroupe ses forces politiques et militaires. Pour l'heure, il ne dispose que de 12 000 hommes en armes à opposer aux 250 000 gardes nationaux fédérés armés qui sont dans Paris. Dans la capitale, les partisans du gouvernement de Thiers, que l'on va appeler les amis de l'ordre, s'agitent surtout dans le premier et le deuxième arrondissement. Les décisions prises par le comité central fédéré en ce deuxième jour de l'insurrection sont le versement de la solde à la garde nationale, qui avait été suspendue par Thiers depuis 10 jours, ainsi que l'interdiction aux propriétaires de congédier leurs locataires qui ne peuvent payer le loyer, la possibilité de retarder d'un mois les échéances de paiement et le report de l'arrêté ordonnant la vente des objets des pauvres mis en gage au monde de piété. Dans les départements, ça bouge aussi. Les journaux évoquent un mouvement insurrectionnel du même type qui aurait éclaté à Lyon. Le mardi, les maires des arrondissements se rendent à Versailles où ils apparaissent, ceints de leurs écharpes tricolores, aux tribunes de l'Assemblée nationale. Ils sont accueillis par des huées lancées par des députés monarchistes majoritaires dans l'Assemblée. Jules Favre, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement, y déclare.
Si l'Assemblée nationale est à Versailles, c'est avec esprit de retour pour combattre l'émeute et la combattre résolument.
Toute discussion avec les insurgés parisiens est donc rejetée. Le même jour, les bourgeois et autres monarchistes parisiens organisent une manifestation en direction de la place Vendôme, où se trouve l'état-major de la garde nationale fédérée, pour appuyer les maires réfractaires à ce mouvement insurrectionnel. Le mercredi 22 mars, nouvelle manifestation des Amis de l'Ordre, place Vendôme. Mais cette fois-ci, il y a des morts. Provoquée, la garde nationale fédérée a montré sa détermination. Le jeudi 23 mars, les Parisiens apprennent qu'ils ne sont pas seuls. À Lyon, une commune autonome et républicaine a été déclarée la veille. Fin de semaine, le vendredi, les fédérés occupent les mairies parisiennes. Pour certaines, cela se passe sans difficulté. Pour d'autres, comme celle du 1er et 2e arrondissement, la garde nationale fédérée est obligée de montrer sa fermeté. Le samedi 25 mars, les maires réfractaires acceptent enfin l'organisation d'élections pour le lendemain. Les Parisiens favorables à l'ordre et à Thiers sont persuadés que tout cela finira très vite avec la reprise en main espérée des troupes versaillaises.
Appel du comité central de la garde nationale aux électeurs parisiens, le 25 mars 1871.
Citoyens, ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre vie, souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leur propre intérêt et finissent toujours par se considérer comme indispensables.
Défiez-vous également des beaux-parleurs, incapables de passer à l'action, qu'ils sacrifieront tout à un beau discours, un effet oratoire ou un mot spirituel. Méfiez-vous également de ceux que la fortune a trop favorisés, car trop rarement celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère.
Enfin, cherchez des hommes aux convictions sincères, des hommes du peuple, résolus, actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Portez vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages. Le véritable mérite est modeste, et c'est aux électeurs à choisir leurs hommes et non à ceux-ci de se présenter.
Citoyens, nous sommes convaincus que si vous tenez compte de ces observations, vous aurez enfin inauguré la véritable représentation populaire. Vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres.
Au 28 mars 1871.
26 mars, dimanche calme et serein. Jour d'élection, jour de vote. Les bureaux sont ouverts de 8h du matin à minuit et les Parisiens doivent élire leurs représentants par arrondissement. Les hommes restés dans Paris vont aux urnes. Les femmes, qui pourtant ont joué un rôle primordial le 18 mars, ne sont pas autorisées à voter. Seulement 47% des Parisiens se prononcent. Ce chiffre peut s'expliquer par les départs liés au siège de Paris et par l'absence des fonctionnaires et des bourgeois qui ont décidé de fuir avec Thiers. Dans le faubourg Saint-Antoine, des habitants se rendent en groupe à la mairie en défilant, bulletin fixé au chapeau. Lisa Garay écrira
« Les rues sont vives, les cafés sont bruyants. Le peuple n'a plus de colère, n'ayant plus de crainte. Le bulletin a remplacé le chasse-pot. »
Le lundi 27 mars, les résultats sont connus. 90 hommes sont élus, dont 25 ouvriers, 12 artisans, une trentaine d'intellectuels et une vingtaine de notables. Leurs noms seront présentés dès le lendemain à la population parisienne devant l'hôtel de ville. L'édifice municipal et la place de l'hôtel de ville se préparent pour ce moment de fête dont les acteurs souhaitent qu'il marque l'avènement d'un monde nouveau. La façade est parée de drapeaux rouges, non pas couleur de sang, mais rouge à l'image du soleil levant. Une estrade est dressée et des canons sont mis en place pour les salves qui seront tirées en l'honneur de la garde nationale fédérée. Le même jour, à Versailles, Thiers déclare à la tribune de l'Assemblée nationale
« Non !» La France ne laissera pas triompher en son sein les misérables qui voudraient la couvrir de sang.
Mardi 28 mars, date importante dans l'histoire de la Commune de Paris, c'est le jour de sa proclamation officielle devant une foule immense. Voici ce qu'en écrit Lisa Garay dans son histoire de la Commune de 1871.
Le lendemain, 200 000 misérables vinrent à l'hôtel de ville installer leurs élus. Les bataillons, tambour battant, le drapeau surmonté du bonnet phrygien, la frange rouge au fusil, grossis de lignards, artilleurs et marins fidèles à Paris, descendirent par toutes les rues sur la place de Grève, ancien nom de la place de l'hôtel de ville, comme les affluents d'un fleuve gigantesque. Au milieu de l'hôtel de ville, contre la porte centrale, une grande estrade est dressée. Le buste de la République, l'écharpe rouge en sautoir, rayonnant de rouge faisceau, plane et protège. D'immenses banderoles au fronton, au beffroi, claquent pour envoyer le salut à la France. 100 bataillons rangent devant l'hôtel de ville leurs baïonnettes, que le soleil égaye. Ceux qui n'ont pu pénétrer s'allongent sur les quais, rue de Rivoli, boulevard de Sébastopol. Les drapeaux groupés devant l'estrade, la plupart rouges, quelques-uns tricolores, tous cravatés de rouge, symbolisent tous l'avènement du peuple. Pendant que les bataillons se rangent, les chants éclatent, les musiques sonnent la Marseillaise et le chant du départ, les clairons lancent la charge, le canon de la commune de 92 tonne sur le quai.
Et t'as vu, la République et la sociale enfin réunies, regarde les drapeaux. Oh, quelle belle journée, je suis heureux, tu sais, tout va changer. Oh oui, allez, dansons.
Bonjour. Que pensez-vous de cette journée?
Eh bien, acheteur, c'est chez Ouvrien qui s'invente être le mouette. Parce que Herbeilleux, et que ma convivant, tchèche qui s'occupe de nos misères à nous chez Ouvrieux, en vivant comme des chiens. Alors, vive le commun la nuit, vive le commun.
Merci.
Voici maintenant la description donnée par Louise Michel dans son livre « La Commune ».
Peu de paroles dans les intervalles que scandent les canons. Le comité central déclare son mandat expiré et remet ses pouvoirs à la commune. On fait l'appel des noms. Un cri immense s'élève. Vive la commune ! Les tambours battent au champ, l'artillerie ébranle le sol. Au nom du peuple, dit Ranvier, la commune est proclamée. Tout fut grandiose dans ce prologue de la commune, dont l'apothéose devait être la mort. Pas de discours, un immense cri, un seul, vive la commune !
Vive la commune !
On a gagné !
Il y en a assez ! Et la misère !
Paix et travail, c'est là que réside notre avenir. La République fera de la France l'ami du faible, le protecteur du travailleur.
Quant à lui, Jules Vallès, dans L'Insurgé, écrira
« Ce soleil tiède et clair qui dort la gueule des canons, cette odeur de bouquet, le frisson des drapeaux, le murmure de cette révolution qui passe, tranquille et belle comme une rivière bleue, ses tressaillements, ses lueurs, ses fanfares de cuivre, ses reflets de bronze, ses flambées d'espoir, ce parfum d'honneur, il y a de quoi griser d'orgueil et de joie l'armée victorieuse des Républicains. »
Le soir même, la commune entérine les premières démissions des élus des arrondissements bourgeois, effrayés par la volonté résolument révolutionnaire de cette assemblée. Pour les remplacer, des élections complémentaires vont être organisées, ce qui fera l'affaire de Thiers. Il n'en gagnera ainsi que plus de temps pour préparer la reprise militaire et politique de la capitale. D'autant plus que les insurrections communardes ne prennent pas en province, et les rares qui se sont proclamés ne vivent que peu de temps. À Toulouse, la commune durera 2 jours. Au Creusot, la commune a échoué le 27 mars. À Saint-Étienne, le 28 mars. Seul résiste encore Narbonne, dans l'indifférence quasi générale d'un monde rural et d'une province sensible aux écrits diffamatoires de Thiers, écrits publiés par l'officiel de Versailles et repris par les journaux provinciaux. On peut y lire...
Les élections à Paris se feront sans liberté et on verra ce qu'il sortira de ces illégalités accumulées.
En soirée, Jules Vallès rédige un article qui paraîtra 2 jours plus tard dans Le Cri du Peuple, sous le titre de « La fête ». Cet article se finit par ces mots.
« La commune est proclamée. C'est aujourd'hui la fête nuptiale de l'idée et de la révolution. Demain, citoyens soldats, pour féconder la commune acclamée et épousée la veille, il faudra reprendre, toujours fier, maintenant libre, sa place à l'atelier ou au comptoir. Après la poésie du triomphe, la prose du travail. »
Il y a 150 ans, la commune de Paris de 1871 sur dissonance. 29 mars au 1er avril.
Dès le matin du 29 mars, les barricades de la place de l'Hôtel de Ville sont enlevées et dès 10 heures du matin, dans le bâtiment municipal, se tient la première séance du Conseil de la Commune. Il en sera ainsi jusqu'au 24 mai, souvent 2 voire 3 réunions par jour. Les comptes rendus partiels ou en totalité seront publiés dans le journal officiel de la Commune. « Les délégués siègent en séance plénière, participent aux travaux des diverses commissions. Ils gèrent aussi les affaires de leur arrondissement, quand ils n'ont pas, pour ceux qui ont des responsabilités dans la garde nationale, à diriger leur bataillon.
« Nous ne dormions pas »,
écrit Arthur Arnoul, un élu du conseil.
« Pour mon compte, je ne me rappelle pas m'être déshabillé, couché, 10 fois dans ces 2 mois. Un fauteuil, une chaise, un banc, pour quelques instants, souvent interrompus, nous servaient de lit. »
Se basant sur le principe du partage des tâches, le conseil de la commune crée 9 commissions. La commission militaire, la commission de sûreté générale, celle de justice, de finances, celle des subsistances, celle de travail, industrie, échange, la commission des services publics, la commission de l'enseignement et celle des relations extérieures. Une première commission exécutive chargée de l'application des décisions est élue pour 1 mois. Les premiers décrets sont pris, abolition de la conscription, les 3 mois de loyer dus par les locataires aux propriétaires sont annulés, la vente des objets du monde de piété est suspendue, les jeux de hasard sont interdits et les étrangers peuvent être admis à siéger au conseil de la commune. Une direction collégiale se met en place dès le début. Il est rappelé dans le journal officiel du 1er avril que la commune de Paris s'administre comme elle l'entend, qu'elle espère qu'il en sera de même dans les autres communes de France, mais aussi dans les cantons et les départements, et qu'elle espère par un pacte national qu'il sera ensuite temps de fédérer toutes ces initiatives. Malheureusement, après les échecs des premières tentatives de communes en province, c'est au tour de celle de Narbonne d'échouer. Elle aura tenu 1 semaine.
Au 5 avril.
La ville est calme et sereine, contrairement aux calomnies que diffuse Thiers dans la presse publiée en province. À l'hôtel de ville, les élus travaillent. Ils sont confrontés, dans un esprit un peu brouillon, à ceux qui veulent qu'un programme de la commune soit rédigé pour répondre à l'attente des Parisiens. Les orientations générales se dessinent, peu à peu, mais il n'est pas facile de rassembler autour d'un même projet des gens aux idées parfois éloignées. Il y a les patriotes, les modérés, les révolutionnaires. Ce dimanche 2 avril, à l'unanimité, les élus de la commune se mettent d'accord sur un décret qui ne concerne que la gestion communale, mais qui, dans l'histoire, aura une destinée nationale tant il est d'avant-garde. Ce jour-là est pris le décret sur la séparation de l'Église et de l'État, celui-là même qui servira de socle à la fameuse loi de 1905.
La Commune de Paris, considérant que le premier des principes de la République française est la liberté, considérant que la liberté de conscience est la première des libertés, considérant que le budget des cultes est contraire à ce principe, puisqu'il impose les citoyens contre leur propre foi, considérant en fait que le clergé a été le complice des crimes de la monarchie contre la liberté, décrète. Article 1. L'Église est séparée de l'État. Article 2. Le budget des cultes est supprimé. Article 3. Les biens-dits de main morte appartenant aux congrégations religieuses, meubles et immeubles, sont déclarés propriété nationale. Article 4. Une enquête sera faite immédiatement sur ces biens pour en constater la nature et les mettre à la disposition de la nation. Signé la Commune de Paris.
Pendant ces discussions, les Versaillais organisent leur armée, alors qu'ils ont prétendu ne pouvoir le faire lors de la guerre contre les Prussiens. Ils font venir des troupes de province et négocient avec l'envahisseur pour qu'il leur rende les soldats prisonniers. Début avril, l'armée régulière est composée de près de 60 000 soldats, choyés, bien nourris, bien vêtus, embrigadés et horrifiés par les mensonges qu'on leur raconte sur les prétendues sauvageries des communards. Paris ne voit pas le danger arriver. Ce premier dimanche d'avril, les Versaillais prennent l'initiative et attaquent du côté de Courbevoie, en banlieue dirait-on aujourd'hui. 12 fédérés sont tués, d'autres faits prisonniers au pied du fort du Mont-Valérien. Apprenant la nouvelle, les Parisiens veulent en découdre. Une action militaire contre les Versaillais est aussitôt envisagée, en liaison avec le conseil de la commune. Les gardes nationaux, un peu en désordre, sans suffisamment de préparation, mal armés, se rassemblent dans la nuit du 2 au 3 avril et le matin du lundi. Le lundi 3 avril, ce sont 3 colonnes fédérées qui se dirigent vers Versailles. La première colonne regroupe 6000 fédérés et menée par Flourens et Bergeret, deux élus du conseil de la commune. Elle se dirige vers Rueil pour attaquer Versailles par le nord, passant non loin du fort du Mont-Valérien. Les fédérés le pensaient vide de Versaillais, mais ces derniers sont venus le reprendre depuis déjà quelques jours. La troupe des gardes nationaux a fort à faire face à un déluge de projectiles provenant du fort. Il y a des morts et des blessés, c'est la débandade. Certains se replient, d'autres poursuivent l'avancée. Ils arrivent à 6 km de Versailles, mais ne peuvent tenir leur position, c'est la retraite. Florence et son ami Cipriani sont arrêtés à Chatou, où ils ont trouvé refuge dans une auberge. Reconnu par un capitaine de gendarmerie, ce dernier tue Flourens d'un coup de sabre. La deuxième colonne est aussi composée de près de 6000 hommes, menée par Émile Duval, un ouvrier fondeur élu de la commune. Elle est partie en direction du sud. Elle subit très vite une contre-offensive versaillaise. Les fédérés tiennent toute la nuit sur le plateau de Châtillon, mais à 5 heures du matin, encerclés par les troupes de Versailles, ils se rendent. Les soldats réguliers, dont certains étaient restés à Paris après le 18 mars et qui se battaient aux côtés des communards, sont aussitôt fusillés. Les communards arrêtés sont conduits à Versailles. L'un d'eux est le futur géographe anarchiste Élisée Reclus. Le général versaillais, Vinois, croise la colonne des prisonniers qui se rendent à Versailles. Il demande au chef fédéré de sortir du rang et les fait aussitôt fusiller. La troisième colonne, celle du milieu, la colonne centrale, a 10 000 hommes. Elle part vers Meudon mais se replie pour ne pas être débordée. La nouvelle de cet échec militaire arrive à Paris. C'est la stupeur. La volonté d'offensive de la part des Versaillais ne fait plus aucun doute. Le conseil de la commune, en accord avec la garde nationale, décide de ne plus tenter de sortie pour le moment. Ce mardi 4 avril, c'est aussi la fin de la commune de Marseille. Elle se termine dans le sang avec un bilan de près de 150 morts et une répression féroce. Mercredi 5 avril, la journée est consacrée à renforcer les protections des forts et de l'enceinte de Paris. Des barricades avec canons sont dressées près des portes de la capitale.
Il y a 150 ans, la commune de Paris de 1871 sur dissonance. 6 au 11 avril.
Pendant 3 jours, les Parisiens suivent les enterrements des gardes fédérés, des ambulancières et des cantinières tués lors de l'offensive de début avril. L'émotion est grande. Le conseil de la commune prend alors la décision de répondre aux exécutions versaillaises par l'exécution d'un nombre triple des otages retenus. C'est le fameux décret des otages qui sera appliqué pendant la semaine sanglante pour 6 hommes, dont 2 prêtres, 3 jésuites et 1 magistrat. Quelques jours avant la prise de ce décret, le conseil de la commune avait fait arrêter l'archevêque de Paris, le curé de l'église de la Madeleine et l'archidiacre de Notre-Dame. Lissagaray, dans son histoire de la commune de 1871, écrira
« La commune, dans son indignation aveugle, ne voyait pas les vrais otages qui crevaient les yeux. La banque, l'enregistrement, la caisse des dépôts, toutes les insurrections sérieuses ont débuté par saisir le nerf de l'ennemi, la caisse. La commune est la seule qui est refusée. »
Dans les rues de la capitale, la vie continue. La foire au jambon se tient boulevard Richard Lenoir, malgré le blocus économique imposé par les Prussiens de Versailles, alors que du côté de l'avenue de la Grande Armée, de la Porte Maillot, de l'Arc de Triomphe et du Parc Monceau, des obus versaillais pleuvent, faisant parfois des victimes. Les badauds viennent observer la résistance des fédérés qui tiennent la barricade de la Porte Maillot pendant que les enfants s'activent à récupérer les éclats d'obus. Dans les arrondissements, les élus travaillent à appliquer le décret de séparation de l'Église et de l'État. Un appel est lancé aux institutrices, aux instituteurs, aux professeurs ainsi qu'aux parents à assister aux réunions qui se tiennent à l'école Turgot.
Tous les dimanches et jeudis, à 3 heures précises, pour études et résolutions pratiques sur les réformes à réaliser dans les programmes, méthodes et lois d'enseignement.
Un autre appel est publié dans le journal officiel du 9 avril.
Aux citoyens et citoyennes qui désireraient un emploi dans les établissements publics d'instruction primaire de la ville de Paris, à présenter leur demande avec pièce à l'appui à la commission de l'enseignement, séant à l'hôtel de ville.
À l'hôtel de ville, le conseil ne chôme pas. D'autres décrets sont pris sur le service obligatoire dans la garde nationale fédérée pour tous les hommes de 19 à 40 ans. Sur la limitation de traitement des fonctionnaires, sur le versement d'une pension aux blessés de guerre, mais aussi aux veuves, aux ascendants et aux orphelins reconnus ou non des hommes tués à l'ennemi. Dans les mots « reconnus ou non » se trouve la remise en question d'un pilier de la société, le mariage, ainsi que la reconnaissance de l'union libre. Le décret sur les loyers est aussitôt appliqué par un grand nombre de locataires qui quittent leur logement sans payer. D'autres Parisiens, pensant que le décret sur le monde de piété permet de récupérer les objets déposés, sont immensément déçus quand ils découvrent que pour l'heure, seules les ventes sont suspendues. Du point de vue militaire, les fédérés passent à l'offensive, une des rares de toute la commune, avec 2 bataillons qui reprennent Amiens et de là bombardent les Versaillais. L'offensive est menée par Dombrowski, un jeune Polonais de 35 ans, nommé le 8 avril commandant de la place de Paris. Le journal officiel, encore, n'a de cesse dans ses parutions de mettre en avant le rôle que les femmes jouent dans l'action communale. Certaines prennent la plume, comme dans le journal officiel du 11 avril, pour ce texte signé d'un groupe de citoyennes.
Citoyennes, toutes résolues, toutes unies, veillons à la sûreté de notre cause. Préparons-nous à défendre et à venger nos frères. Aux portes de Paris, sur les barricades, dans les faubourgs, n'importe. Soyons prêtes, au moment donné, à joindre nos efforts aux leurs. Si les infâmes qui fusillent les prisonniers, qui assassinent nos chefs, mitraillent une foule de femmes désarmées, tant mieux. Le cri d'horreur et d'indignation de la France et du monde achèvera ce que nous aurons tenté.
Tous les copains de la commune ne sont pas morts sans rien laisser. Ils doivent nous garder rancune, de laisser crever leur passé.
12 au 16 avril.
Paris communard entame sa 4e semaine. Au niveau militaire, les soldats attaquent les forts de Vanves, de Montrouge et d'Issy, arrivant à 100 mètres des tranchées fédérées, s'approchant de Neuilly où ils installent leurs canons, occasionnant des dégâts importants dans l'ouest de Paris, de la Porte Maillot jusqu'à la place de l'Arc de Triomphe. La résistance des gardes nationaux fédérés arrive à maintenir les troupes à distance, mais au prix de nombreux blessés. Au niveau politique, l'Assemblée nationale, dans sa séance du 13 avril, écarte comme inopportune la question de la paix avec Paris et vote une loi empêchant les villes de plus de 20 000 habitants d'élire leur maire, ce droit, d'après eux, revenant à l'État. À l'hôtel de ville, les élus de la commune continuent d'avancer dans leur projet de révolution sociale. Le Conseil vote le 14 avril un décret sur les échéances donnant 2 années de délai aux débiteurs pour payer leurs dettes. Le 16 avril, c'est l'adoption du décret instituant une commission d'enquête pour le recensement des ateliers abandonnés par leurs patrons et la constitution de coopératives ouvrières. Geste d'importance dans la voie de la remise en question du principe de propriété privée, avec en arrière-plan le concept de gestion ouvrière. D'autant plus que depuis 1789 et la loi Chapelier, les associations corporatives sont interdites et l'ouvrier soumis au desiderata du patron. Au niveau de l'action symbolique, le 12 avril est pris le décret sur la démolition de la colonne Vendôme, sur laquelle sont gravées les victoires militaires napoléoniennes.
La commune de Paris, considérant que la colonne impériale de la place Vendôme est un monument de barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte permanente des vainqueurs ou vaincus, un attentat perpétuel à l'un des trois grands principes de la République française, la fraternité, décrète. La colonne de la place Vendôme sera démolie.
La vie municipale n'est pas oubliée car le dimanche 16 avril, les Parisiens sont invités à aller voter pour élire les 31 élus au conseil de la commune qui font toujours défaut. Dans les mairies d'arrondissement, on travaille à rendre concrète la politique sociale de la commune en créant, comme dans le 13e, des cantines municipales gratuites en échange d'un travail temporaire à faire le jour du repas ou plus tard.
Ces cantines fourniront à tous ceux qui seront obligés d'y recourir la substance nécessaire en échange du travail que chacun pourra faire, en avance ou crédit.
Sur le front des combats, du côté de Neuilly, les Parisiens âgés de 19 à 40 ans, enrôlés dans la garde nationale fédérée, font preuve d'un grand courage. Dans Paris, les hommes et les femmes affectés à la garde nationale passent leur journée sur les fortifications et dans les forts, ou sur le front, du côté de Neuilly, où il faut tenir pour que la commune puisse exister. C'est ce qu'ont compris les femmes qui se réunissent rue du Temple pour la création de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Elles élaborent un texte envoyé aux élus de la commune qui débute par ces mots.
Considérant qu'il est du devoir et du droit de tous de combattre pour la grande cause du peuple, pour la révolution, que le péril est imminent et l'ennemi aux portes de Paris, par conséquent, les délégués des citoyennes de Paris demandent à la commission exécutive de la commune de donner l'ordre aux mairies de tenir à la disposition des comités d'arrondissement et du comité central, institués par les citoyennes pour l'organisation de la défense de Paris, une salle dans les mairies des divers arrondissements, ou bien, en cas d'impossibilité, un local séparé où les comités pourraient siéger en permanence.
Ce texte est signé par un comité central provisoire composé d'Adélaïde Valentin, ouvrière, Noémie Colleuil, ouvrière, Marcan, ouvrière, Sophie Grex, ouvrière, Céline Delvinquier, ouvrière et Elisabeth Dmitrieff. Les artistes ne chôment pas non plus. Le 13 avril, ils se réunissent à l'initiative de Gustave Courbet, futur élu de la commune, il ne le sera qu'à partir du 20 avril, pour élire leurs délégués au sein d'une fédération avec pour mission
la conservation des trésors du passé, la mise en œuvre et en lumière de tous les éléments du présent et la régénération de l'avenir par l'enseignement.
Les réunions publiques continuent à rythmer la vie des Parisiens. Salle Molière, au 159 rue Saint-Martin, il y a débat tous les soirs à 20h pour échanger sur la Commune de Paris, son rôle et ses attributions. Dans la capitale, le retour des bataillons qui ont combattu à Vanves, ici ou à Neuilly, est fêté en grande pompe sur la place de l'Hôtel de Ville. La circulation devient plus aisée. Dès le dimanche 16 avril, les portes de la Chapelle, de Pantin, de Romainville, de Vincennes, de Charenton, d'Italie et d'Orléans sont ouvertes à toutes les personnes exemptées de service dans la garde nationale fédérée, c'est-à-dire celles âgées de moins de 19 ans ou de plus de 40 ans. Elles sont ouvertes de 6h du matin à 6h du soir. La circulation par les autres portes, notamment celles qui se trouvent vers le sud et l'ouest, face aux armées versaillaises, reste interdite. Gustave Courbet écrit à ses parents
« Paris est un vrai paradis. Point de police, point de sottise, point d'exaction d'aucune façon. Il faudrait pouvoir rester toujours comme cela. »
Sans te bouger,
mais c'est dans la rue que ça se passe.
Mais la commune est comme un poème. Elle engendre un sens qu'elle ne contient pas tout entier, un sens qui la dépasse, mais qui n'existerait pas sans elle. Tout vient peut-être de ce que la commune est plus durable qu'elle n'a duré, de sorte que sa lumière voyage encore, bien que son étoile ait fini d'exploser.
Cet exergue, tiré du dictionnaire de la commune de Bernard Noël, dit combien l'air du temps des cerises porte une mélodie que Dissonance a commencé à égrener pour vous. Cette émission portait sur les quatre premières semaines de la commune de 1871. La prochaine nous conduira jusqu'aux prémices de la Semaine sanglante. Cette émission est à réécouter mardi 23 mars à 18h, mercredi 24 mars à 8h et samedi 27 mars à 16h. Vous pouvez aussi la podcaster sur les sites de Radio Sainte-Afrique ainsi que sur dissonance.ovh. Vous trouverez d'ailleurs sur ces pages internet des informations complémentaires permettant d'approfondir le sujet.
Salut
et fraternité.
Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit, avec toi, je vais aux barricades. La place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernier culbute, une balle en plein front, sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères. Malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire. On les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre. Il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte.